tout chargé avec la Microsoft Build qui approche à grands pas. Mais en attendant, pour notre table ronde mensuelle qui a un peu de retard, nous allons parler avenir avec WASI, prévu en preview dans .NET 8, IA encore avec un cours magistral sur la maîtrise de ses prompts et on verra que ce n'est pas si simple que cela, et DevOps avec le fameux format de fichier YAML contre la vue classique, dite classique, dans DevOps. Je serai pour cela entouré des MVP Laurent, Olivier et Jérémy avec tout leur savoir et leur savoir-faire. L'épisode sera également parsemé de quelques petites actualités sur .NET et assimilées. Alors, plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request. Bien, et ben pour ce 20e épisode de DevDevDev.NET, cette table ronde de mai qui est enregistrée le 9 mai, donc avec un petit peu de retard, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Olivier. Bonjour.
Bonjour à toi.
Donc MVP depuis 2009, développeur technologie, fondateur de la société Inaxos, société de consulting et de formation sur .NET, C#, MAUI et WPF. Olivier Daon, préciser le nom complet quand même. Et je reçois également Laurent, bonjour.
Bonjour Richard.
Laurent Campé, donc Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Innoveo. Eh bien écoute, on va commencer par toi, juste avant que tu attaques, je voulais faire juste une petite news. On a, pour ceux qui font du SPA, il y a Angular 16 qui est maintenant dispo depuis hier seulement, depuis le 8. Donc une nouvelle version d'Angular, c'est les versions majeures. Le principal événement entre guillemets de cette nouvelle version, c'est l'ajout de ce qu'ils appellent les signals, donc qui va permettre d'accélérer les modifications des éléments qui sont à l'intérieur de son interface. Et à terme, ça permettra de se débarrasser de Zone.js qui deviendra obsolète et donc on pourra avoir enfin du code de type async await qui sera supporté par Angular. Donc une nouvelle version d'Angular qui vient de sortir. Et Laurent, toi tu voulais nous parler de WASI qui sera présent dans le .NET 8 SDK.
Alors déjà tu en dis déjà trop.
Pardon, oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors WASI, je vais venir un peu plus loin dans ce que c'est exactement, mais pour commencer à en parler, on va comprendre un peu dans l'écosystème .NET d'où ça vient. Donc Steve Sanderson, que tout le monde connaît comme le papa de Blazor, serveur, WebAssembly et hybride à venir. Il a introduit un .NET WASI SDK en mars 2002 dans un GitHub, un repository GitHub personnel, donc en son nom. OK. Et depuis, donc ça fait un peu plus d'un an.
2022, hein, parce que tu as mis 2002.
J'ai dit 2002 2022, oui, oui. Pardon. 2022, oui, bien sûr, 2022. Personne ne parlait de WASI et de WebAssembly en 2002. Donc en mars 2022. Et ce repository qui était sous son nom a été bougé sous le repository .NET qui est maintenu par Microsoft il y a quelques mois. Et maintenant, donc, la dernière nouveauté et l'annonce qui va être faite, qui n'est pas encore faite, pour l'instant, l'équipe .NET travaille sur .NET 8. On a eu une preview 1, 2 et 3. Très bientôt, on va avoir la preview 4. Et cette preview 4, si on est intéressé par toutes ces technos, elle délivre déjà le WASI SDK dans certaines des nightly builds de la preview 4. Donc, quand ils vont publier officiellement la preview 4, soit ils vont l'annoncer, soit ils vont l'annoncer un peu plus tard que la preview 4. Mm-hmm. Donc ça, c'est les dernières informations. Ce qui est aussi à noter, c'est que WASI sera même dans .NET 8, mais ça sera encore une feature qui sera encore en preview pour .NET 8. D'accord ?
D'accord, oui, c'est vraiment tout frais, quoi.
C'est très frais et ça ne sera pas finalisé dans .NET 8, mais déjà bien avancé. Alors donc, qu'est-ce que c'est que WASI pour répondre à ta question ? On connaît tous maintenant WebAssembly grâce à Blazor. Donc Blazor et WebAssembly ont besoin de tourner dans un web browser. D'accord ? Donc WASI, déjà qu'est-ce que ça veut dire ? L'acronyme WASI, c'est WebAssembly System Interface. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir tourner un binaire WebAssembly en dehors d'un web browser. Donc, typiquement, sur un serveur, sur un device IoT, sur un peu partout. Une des fonctionnalités qui est intéressante de ce système et de cette idée WASI, c'est que, en fait, on va pouvoir avoir un fichier binaire qui est portable. On n'a pas besoin de recompiler le binaire, qu'on aille sur une architecture 32, 64, qu'on aille sur différents processeurs, etc. C'est aussi l'idée de WebAssembly et de WASI, c'est d'être ce qu'on appelle sandboxé, c'est-à-dire qu'on a un environnement sécurisé où en fait on va devoir donner des droits à l'environnement pour dire par exemple, ben, tiens, mon application, elle a le droit d'exposer un port TCP, ou elle a le droit d'aller lire un fichier sur ce répertoire. Et donc, c'est vraiment contraint au départ, et on va devoir définir certains droits d'accès. Et donc, WASI, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner tous ces accès et toute cette possibilité-là de WebAssembly, mais de tourner en dehors du web browser, donc sur un serveur, comme une application web, comme différentes autres possibilités. Je crois qu'on a vu la dernière fois l'exemple que donnait Steve Sanderson avec le .NET Isolator. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va utiliser WASM et WASI, qui va permettre d'exécuter un processus de façon sécurisée avec du code qu'un utilisateur pourrait rentrer, imaginons, dans une interface web. Il va rentrer du code, par exemple, qui va décrire une espèce de fonction. Et nous, notre programme, il ne connaît pas le code que cette personne va écrire. Donc ça va permettre d'isoler en fait sa fonction, mais de la faire tourner de façon protégée. Et donc, il y a un écosystème qui est en train de se créer autour de tout ça, pas que dans le monde .NET. Hein. Il y a Kotlin pour Java ou Java. Il y a Rust aussi, bien sûr, qui est un des langages qui permettent de cibler WebAssembly de façon assez facile, on va dire. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que .NET est en train de bouger dans cette direction. À savoir aussi que, en fait, la façon de fonctionner, ça, c'est pas encore tout à fait clair. Mais aujourd'hui, quand on a WebAssembly dans le web browser, à travers Blazor, en fait, la seule partie qui est en WebAssembly, c'est le runtime. C'est l'équivalent du CLR de .NET qui a été compilé en WASI. Mais vos assemblées, elles sont toujours compilées en IL. Par contre, elles sont interprétées par le CLR WebAssembly dans le web browser. Encore une fois, WASI, c'est une extension de WebAssembly pour l'extraire d'un web browser et pouvoir le faire tourner où on veut. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc d'avenir. C'est quelque chose que je regarde aussi beaucoup en parallèle avec Dapper, dont on a déjà parlé. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une espèce d'alignement de choses qui sont en train de se passer dans tout ce qui est cloud, distribué, microservices, IoT. Par exemple, WebAssembly, maintenant, ils sont en train de travailler sur des interfaces, donc des WebAssembly System Interface, qui sont très proches de ce que fait Dapper, par exemple, pour abstraire une base de données qui va lui pair ou des choses comme ça, vous aurez une interface standardisée, exposée en WASI, et derrière, vous pourrez avoir le key value store que vous voulez. Donc, c'est à peu près le même concept que Dapper, avec un sidecar sur Dapper, mais là, c'est avec des interfaces système. Donc, il y a vraiment une espèce de convergence de toutes ces idées vers une simplification comme celle-là, quoi.
Mais alors, au niveau, j'allais dire concrètement parlant, c'est pour faire quel type d'application ? Enfin,
alors, Ce que pour l'instant, ce dont on entend le plus parler, c'est avoir l'équivalent d'Azure Function ou de Lambda, par exemple, Fermium, qui est une des boîtes qui se dit comme l'avenir du cloud et tout ça, qui donne déjà accès à leur cloud, leur possibilité de déployer des bouts de code en WASI et WebAssembly. Donc l'idée, c'est vraiment, bah, tu pourras faire un peu de tout ce que tu veux comme applicatif, quoi. Mais l'idée, là, en fait, et un des avantages, c'est que le binaire est très, très compact. Et par exemple, comparé à un container, par contre, on peut aussi associer ça à un container, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus petit. Donc, ça démarre beaucoup plus vite. Même si un container, franchement, ça démarre quand même relativement vite. Mais là, ça démarre encore plus vite. Et par exemple, Fermion montrait en fait une échelle, je ne vais pas dire de bêtises, mais ils avaient un matériel sur lequel avant ils faisaient tourner des containers. Ils ont pu multiplier par 100 le nombre d'applications qui déployaient sur le même serveur pour les mêmes ressources, quoi.
Donc ce serait entre guillemets une évolution un petit peu des containers ou si.
Non, c'est pas vraiment en fait, ce qui a été fait, c'est que les containers, par exemple Docker, maintenant supportent, je pense que c'est en alpha ou bêta ou quelque chose comme ça, te permet de créer un container qui va en fait à l'exécution, qui va te servir comme un package. Ça va être un peu l'équivalent, si tu veux, d'un espèce de ce qu'on fait avec NuGet, mais pour WebAssembly. Donc, ton container contient un composant WebAssembly et il peut être déployé. Et en fait, ce qu'ils veulent accélérer, c'est tout le tooling que tu as autour de Docker et des containers. Tu as déjà tout qui est en place, tu vois. Donc, ils n'ont pas besoin de réinventer la roue pour ça. Et donc là, en fait, tu peux utiliser les deux ensemble. Mais tu peux aussi ne pas les utiliser et puis aller avec des outils comme Fermion qui déploie sans container. Mais tu peux utiliser les deux, en fait.
D'accord.
Donc
OK.
pour moi, c'est encore quelque chose qui est en preview dans .NET 8, mais c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à suivre. Je pense qu'il y a un avenir assez brillant si tout le monde arrive à se mettre un peu d'accord sur les trucs qui arrivent après. Il y a un standard de garbage collection qui est en train d'arriver, le multi-threaded. Il y a un standard pour les sockets et tout ça, quoi. Donc, ouais, vraiment quelque chose d'intéressant, très intéressant.
Olivier, toi, t'as regardé un petit peu ça ou pas du tout?
Non, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de regarder ce truc-là. Et puis, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore bien compris l'intérêt parce que du code qui est dans le browser, puis qu'on arrive à installer en dehors du browser, moi, ça me rappelle Silverlight et Silverlight out of browser, quoi, qu'on pouvait installer en permanence. Alors, il y a certainement eu beaucoup d'évolutions depuis et ça doit permettre plein de choses de plus. Mais c'est le contexte applicatif pour l'instant que j'ai du mal à cerner. Ça viendra, hein, je veux dire, mais je me suis pas trop penché sur le truc pour l'instant, c'est vrai. Mais il y a certainement des possibilités énormes. Ouais.
Après, il y a une des fonctionnalités dont je n'ai pas parlé, c'est que toi, l'exemple que tu prends est pas mal, je trouve. Mais Silverlight, en fait, c'était. Imagine que moi, j'écris un composant en Java et je voudrais que tu l'intègres dans ton applicatif. Eh ben, tu pouvais pas le faire. Avec WebAssembly, l'histoire l'idée des composants, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Donc, ça, c'est assez intéressant. Après, c'est sûr que si tous les composants sont des composants qui viennent avec le CL et un équivalent du CLR, etc., ça risque d'être un peu lourd. Mais des composants, par exemple, qui ont été écrits en Rust ou qui n'ont pas besoin de runtime spéciaux à l'intérieur du runtime WebAssembly, je pense que c'est une idée qui peut être pas mal.
On verra s'ils arrivent à se mettre d'accord tous pour faire quelque chose de cohérent, quoi.
Oui, il y a un consortium qui est derrière, je pense.
Ouais, c'est pour ça que ça avance un peu. Enfin, non, ça avance quand même pas mal, je dois dire, mais ça prend du temps, quoi, c'est sûr.
Ouais, c'est une idée à suivre.
OK. Bon, bah écoute, merci Laurent pour cette découverte. Bah je pense que ouais, ça viendra sans doute peut-être avec .NET 9 et puis en dur avec .NET 10, quoi, maintenant qu'on a un .NET tous les ans.
Oui, c'est ça.
Je pense qu'il y a d'autres langages qui mettent un peu la pression, qui avancent peut-être un peu
Plus
plus
vite.
vite, on va dire. Donc, on verra.
OK.
Dev.net. Richard Clark.
Bien, ben merci. Juste avant de passer la main à Olivier, la dernière fois, le dernier podcast, là, le numéro 19, on avait parlé de sémantique kernel. Alors, il y a une nouvelle version qui vient de paraître lundi dernier, donc avant-hier, qui est la version 0.13.442.1-preview. Wow. À vos souhaits. Bon, faut savoir que ils ont prévu de faire une publication de leur package Nuget tous les lundis. Bon, il y a 15 jours, ils l'ont pas fait, mais ils font une publication tous les lundis. Juste à noter que dans cette nouvelle version, on a deux exemples de planners qui ont été posés. On a l'Action Planner et le Sequential Planner. Donc, pour vous donner un peu une idée de ce qu'ils font, l'Action Planner, en gros, c'est vous créez votre kernel, vous lui rajoutez des skills à l'intérieur, donc des compétences, par exemple, capacité de résumer un texte, capacité de... compter par exemple le nombre de mots, etc. Quoi. Enfin, vous lui rajoutez comme ça tout un tas de compétences. Et puis ensuite, vous lui envoyez un prompt en lui disant « voilà ce que je veux faire ». Et ben l'Action Planner va choisir parmi les différentes compétences la compétence qui est pertinente, donc en faisant un appel aux API de OpenAI, il va à ce moment-là exécuter votre compétence. Donc ça permet d'avoir une extraction un petit peu de ce que vous devez faire. Et donc, c'est avec le prompt que vous allez décider des actions que vous allez faire. Et donc, c'est justement là où je voulais en venir avec Olivier, puisque toi, tu voulais nous parler justement des prompts, comment devenir un ninja du prompt.
Oui. En effet, c'est de ça dont je vais vous parler, parce que bon, déjà, tout le monde parle de ça. Bon, alors, c'est finalement normal, hein, le sujet des IA, ça passionne, hein, je veux dire, c'est une évidence. Je veux dire, mais c'est un domaine complexe quand même dont la plupart des concepts restent un peu nébuleux. Alors, le prompt engineering, puisque c'est ça que je vais parler, parce qu'on ne va pas parler de tout ce qui tourne autour des IA en 10 minutes, puisque c'est à peu près le temps que tu m'as donné. Hein, j'ai bien compris, ce n'est pas 10 jours, quoi, je vais faire 7 minutes. Donc, le prompt engineering, pour moi, c'est un truc qui est un peu à la limite entre le fantasme, la magie et la programmation. Donc, j'ai essayé de vous faire comprendre. Bon, vous, je pense que ça va aller, mais peut-être que certains de nos auditeurs ne savent pas encore tout sur le prompt engineering et en quoi c'est important et comment ça peut être utilisé pour améliorer les performances qu'on a dans les IA, notamment tout ce qui est LLM comme GPT. LLM, hein, Large Language Model, hein, qui sont des NLP, des Natural Language Processing, parce qu'il y a d'autres types d'IA, bien évidemment, pour lesquels ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, tout d'abord, il faut définir ce que c'est qu'un prompt. Un prompt, c'est une question, c'est une instruction, c'est un déclencheur, c'est une invite qui permet d'inviter un modèle d'IA à générer une réponse. Bon, en somme, il s'agit de la façon dont on interagit avec un LLM pour obtenir des réponses ou des résultats. On parle aussi d'invite, en français d'ailleurs. Donc, le prompt engineering en lui-même, c'est quoi ? C'est l'art et la science de concevoir et d'optimiser ces prompts pour obtenir les meilleures performances possibles d'un modèle d'IA. Il s'agit de comprendre comment le modèle fonctionne, parce que sinon on n'y arrivera pas bien, et comment il traite l'information, et comment lui donner des instructions claires et efficaces pour obtenir la réponse qu'on souhaite obtenir. Le fait qu'on utilise du langage humain, des fois c'est un peu vu comme magique, etc., puis on se dit c'est génial, en fait c'est pas forcément une simplification. Hein, bien au contraire. En fait, ça impose de savoir parler correctement là où les langues dans lesquelles on va interroger l'IA, d'avoir un vocabulaire riche et précis et une grammaire irréprochable. Je dis ça pourquoi ? Parce que rappelez-vous que les IA comme GPT sont entraînées sur un corpus de textes relativement sérieux, du type Victor Hugo, Proust, Shakespeare, etc., en plus des sources comme Wikipédia, mais qui ne sont quand même pas du javanais. Donc le modèle a appris comment reconnaître les langues et comment elles fonctionnent en partant de textes qui sont bien écrits, pas en lisant des paroles de rap français, quoi.
Bon, ouais, ce que je disais, c'est qu'on parle souvent comment reconnaître un devoir d'un étudiant fait par une IA. Ben c'est la seule où il n'y a pas de faute d'orthographe.
Quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça. Et alors, rigolez pas, parce que pendant que j'étais en train de préparer ce truc-là, il n'y a pas plus longtemps que samedi dernier, d'ailleurs, dans les news de Bing, hein, donc je parcourais d'un œil distrait dans une pause, et dans un même article, alors d'assez mauvaise qualité, mais il y a presque plus que ça, je veux dire, j'ai relevé deux choses amusantes. C'était de l'ordre du sketch chez Coluche à l'époque, et là, c'était carrément écrit dedans. Par exemple, à un moment donné, la personne dont il parlait, c'était une news, on va dire, de type rubrique fait divers, et il parlait de relever la pente. Au lieu de remonter la pente ou de relever la tête. Et dans le même article, qui ne faisait pas beaucoup, qui avait deux paragraphes, ils ont dit, la personne, elle a vite déchanté à un moment. Alors, au lieu de déchanter, ils ont mis déjanté. Ils ont alors vite déjanté. Au lieu de déchanter. Donc, si ça, ce sont vos seules sources uniques de lecture, les gars, abandonnez tout de suite espoir de faire carrière dans le prompt engineering. Ça marchera pas. Hein. Donc, c'est vrai que le fait que ce soit un langage naturel, ça peut être vu comme un avantage, mais en fait, finalement, bon, bah, il faut avoir un bon niveau en anglais, en français, connaître les formes idiomatiques, machin, etc., parce que c'est ça que ChatGPT ou d'autres du même genre ont appris, bien évidemment. Alors, pourquoi le prompt engineering, c'est important? Bah, parce que simplement, l'efficacité des modèles d'IA, une fois qu'ils vont être entraînés, hein, comme le GPT, hein, dépend en pratique de la qualité des prompts qu'on va faire. Un bon prompt permet au modèle de fournir des réponses précise et pertinente, tandis qu'un mauvais prompt peut entraîner des réponses soit erronées, soit incohérentes, voire favoriser ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire des prompts, des réponses, je veux dire, dont l'aspect est celui du vrai et du juste, et qui sont dits avec aplomb, mais qui sont complètement inexactes. Alors on le voit bien aussi dans les images ou dans les choses comme ça qui sont fabriquées par IA, il y a cette forme d'hallucination, la fameuse photo de la petite fille dans sa chambre, etc. Bon, bref. C'est ça, les hallucinations des IA. Et en travaillant sur l'amélioration des prompts, on peut bien évidemment améliorer considérablement les performances de l'IA, choisir le bon modèle aussi. Et finalement, c'est la même chose entre humains. Mal poser une question, c'est assurément ne pas recevoir une réponse claire, donnant-donnant. Hein. Mm-hmm. C'est d'ailleurs bien plus aux questions qu'il pose qu'aux réponses qu'il donne qu'on juge de l'intelligence de quelqu'un. C'est connu. Hein. Mm-hmm. Pareil pour ceux qui interrogent l'IA. Alors, bon, on va essayer de rendre tout ça un petit peu concret pour terminer. Je veux dire, en quoi consiste le prompt engineering et pourquoi c'est important, on a vu. Mais on va regarder 2, 3, 4, 5 stratégies en fait, qui sont utilisées en prompt engineering pour que vous ayez une idée de en quoi ça consiste. Bah, par exemple, en fait, on utilise des stratégies pour arriver à faire parler l'IA. Notamment, premier grand principe, c'est celui de la clarification et de la spécificité. Il est important de formuler donc ces prompts de façon claire et spécifique pour obtenir des réponses précises. Donc, sinon, ça sera mal interprété, ça on l'a dit. Donc en fait, si on prend un mauvais prompt de ce style-là, ça sera « dis-moi quelque chose à propos de Paris ». En fait, hélas, c'est trop vaste. Donc la réponse, ça va être tout et n'importe quoi, on ne saura pas quoi en faire. Quoi. Ça tombera peut-être bien, hein, mais ça ne sera pas sûr que ça soit
bien.
Donc un meilleur prompt dans ce cas-là, ça sera « peux-tu me donner par exemple 3 lieux historiques à visiter à Paris et expliquer brièvement leur importance ?» Là, on aura certainement une réponse de meilleure qualité, plus ciblée en tout cas. Mm-hmm. Une autre stratégie qu'on utilise, ça va être le guidage contextuel. C'est-à-dire qu'on va fournir des informations contextuelles pour aider le modèle à comprendre la situation et à fournir des réponses plus pertinentes. Alors, il existe plusieurs façons de donner du coup du guidage contextuel, mais dans un prompt, par exemple, on va tout simplement préciser les choses auxquelles on s'attend ou le domaine dans lequel on est, etc. Par exemple, un mauvais prompt de ce genre-là, ça sera « résous l'équation x au carré moins 4x plus 4 égale 0 ». Bon, c'est pas sûr qu'il donne une réponse tout à fait exacte. Pour le guider, on va faire un meilleur prompt qui sera « résous cette équation quadratique en utilisant la méthode de la factorisation » x2 moins 4x plus 4 égale 0. Et dans ce cas-là, on l'aura mis sur les bons rails, en fait. Hein. C'est comme dans tout langage humain, les mots ont leur champ sémantique, et si on guide l'IA dans les bons champs sémantiques, on a plus de chances d'avoir la réponse qu'on veut. Une des troisièmes stratégies qu'on utilise, c'est les instructions explicites. C'est-à-dire que parfois, il est nécessaire de donner des instructions très claires, très explicites au modèle pour qu'il réponde d'une manière bien spécifique. Par exemple, si on veut une réponse très concise, on pourra demander au modèle de résumer ses pensées en quelques phrases. un mauvais prompt, ça va être qu'est-ce que la photosynthèse. Un prompt un peu meilleur, ça va être explique brièvement en deux phrases ce qu'est la photosynthèse. Mmh. On va le guider pour avoir une réponse qui nous convient en quelques lignes. La quatrième façon de faire, c'est la reformulation. Si un prompt initial ne produit pas exactement ce qu'on veut, on peut être amené en fait à reformuler sa question ou alors à poser des questions complémentaires pour obtenir une réponse plus précise. Parce que là, on tire avantage du fait qu'il y a un contexte qui est maintenu en mémoire et on peut se référer à ce qu'on a déjà dit avant et ce que l'IA a déjà répondu. Par exemple, un mauvais prompt, c'est « qu'est-ce que le changement climatique ?» Ça risque d'être très technique, très confus, on n'a aucune précision du type de langage qu'on veut qu'il tienne, etc. Ça ne marchera pas trop. Donc si c'est trop technique, si c'est trop infernal, vaudra mieux la reformuler comme ça. Peux-tu expliquer le changement climatique en termes simples pour un enfant de 10 ans ? Mmh. Et là, ça risque d'être compréhensible. Et puis enfin, la cinquième technique, parce qu'on va s'arrêter là, c'est l'utilisation d'exemples. Parce que fournir des exemples de réponses souhaitées à l'intérieur du prompt peut aider à guider le modèle vers une bonne réponse ou le formatage. Par exemple, moi, je m'en suis amusé à faire des formatages en JSON de la réponse, un truc comme ça. Si tu donnes des exemples, tout de suite, il comprend mieux ce que tu veux faire. Et donc là, on va lui demander, par exemple, de générer un paragraphe descriptif et on peut inclure, par exemple, un paragraphe similaire pour montrer ce qu'on attend de lui. Donc, c'est des fois, il faut fournir un truc qui ressemble. Par exemple, le mauvais prompt dans ce genre de cas, ça serait « écrit un haïku sur le printemps ». Alors, vous connaissez les haïkus, mm-hmm. C'est des petits proverbes japonais, enfin des petits poèmes japonais. Et si on veut que ça marche bien et qu'il génère un haïku qui ressemble vraiment à un vrai haïku, le mieux, c'est d'écrire, par exemple, « écrit un haïku sur le printemps », voilà, ça va changer, virgule, en suivant le format traditionnel de trois lignes avec 5 syllabes, par exemple, ouvrez les guillemets, fleurs de cerisier, virgule, le vent les emporte loin, virgule, printemps éphémère, point.
Je veux dire, un spécialiste de l'haïku, là.
Et donc, si tu lui poses le prompt de cette façon-là, hein, sachant que tout ce que je viens de dire fait partie du prompt, mm-hmm. avec l'exemple, tu as beaucoup plus de chances que l'IA derrière va suivre. Et c'est pareil si tu veux du formatage en JSON, en XML, machin, etc., etc. Donc, c'est qu'un bref extrait de toutes les techniques qui sont utilisées. Hein. Vous entendrez parler aussi, par exemple, du role prompting, qui consiste à lui assigner un rôle. Donc là, c'est pareil, c'est récupérer un contexte existant dans sa mémoire, mais ça précise le contexte. Ce qu'on appelle aussi les zero shot, les one shot, les few shot prompts, donc qui consiste à rajouter des exemples, justement, dans son prompt. Du guidage de style. Moi, je me suis amusé, par exemple, à lui demander de faire une réponse, mais en parlant à la façon du capitaine Haddock. Mmh. Alors, il commence par 1000 millions de sabords, machin, etc. C'est très rigolo. Alors, ça marche mieux avec des trucs pour lesquels il a été beaucoup plus entraîné. Hein. Si tu veux avoir le ton de Shakespeare ou des choses comme ça, il connaît beaucoup mieux ce genre de texte que le capitaine Haddock. Il y a les inserts aussi. Ça, c'est un truc propre à GPT, où on met entre brackets américains, en fait, on met des choses et qui va remplacer lui-même par ce à quoi ça correspond. Si on dit nom d'animal, par exemple, qu'on le met dans ce prompt, dans ces brackets, au moment où il va générer, il va mettre le nom d'un animal. Mais il peut faire référence à un nom d'un animal dont on parlait déjà avant. Tout est question de contexte, bien évidemment.
Oui, et puis ça, quand tu le combines avec un exemple, ça peut être encore plus...
Voilà, c'est encore plus frappant. Ouais. Ouais. Tu peux lui faire faire d'ailleurs des choses dans le sens. Tu peux lui demander tu trouves que tu as été spammé tous les jours avec des trucs commerciaux, mais il y a une lettre commerciale, un mail commercial que tu as trouvé qui était mieux que les autres, quoi, je veux dire, qui te semblait vachement pertinent. Tu te dis, comment je pourrais utiliser ça, moi, pour promouvoir dev, par exemple, tu vois. Mm-hmm. Et donc, en fait, ce que tu peux faire, je me suis bien lui faire faire des choses comme ça, tu peux lui demander d'analyser, en fait, le mail, tu fais un copier-coller depuis ta boîte mail, et tu dis, analyse-moi le style, analyse-moi le machin, etc., et crée-moi un template en remplaçant les mots importants par des inserts. Mm-hmm. Et à la fin, tu peux carrément te brancher sur une base de données machin avec Word, tu prends le truc et tu fais de l'emailing, quoi, je veux dire. Il va réécrire pour ton produit un truc dans le même genre, avec le même genre de phrasé, etc., en remplaçant les parties après qui sont intéressantes. Donc il y a plein de techniques de ce genre-là. On utilise aussi, par exemple, des descripteurs, en fait, en gros des adjectifs hein, qui permettent de préciser sa demande, ou même des invites d'amorce, c'est-à-dire qu'en fait, comme il y a de la mémoire, il y a du contexte, tu peux très bien créer un premier prompt qui ne te sert à rien, où tu lui dis juste réponds-moi OK, en fait, parce que tu n'attends rien de plus, mais dans lequel tu vas lui raconter toute une histoire qui précise vraiment le contexte. Ce qui fait qu'après, dans les questions que tu vas poser, il aura déjà en tête en fait ce pré-prompt, on va dire, qui est en tête. On appelle ça une invite d'amorce. Donc, il y en a plein, bien évidemment, parce que c'est un domaine encore jeune et en perpétuelle évolution, avec des nouvelles techniques et des approches, on en a tous les jours qui sont développées. Hein. Donc, pour conclure, le prompt engineering, c'est un aspect crucial de l'interrogation et de l'amélioration des performances des modèles d'IA. En optimisant la manière dont on interagit avec ces modèles et en affinant les prompts qu'on utilise, on va pouvoir tirer le meilleur des capacités en fait, de l'IA et obtenir des réponses plus précises, plus pertinentes et utiles, et surtout moins chères, car n'oublions pas que le token, ce n'est pas gratuit. Hein oui. Donc, il y a le choix du bon modèle aussi, par exemple DaVinci, etc., dans ChatGPT, que si ça ne nécessite pas d'être du niveau de GPT-4, qui est plus cher par token, on peut utiliser d'autres trucs. Ça, c'est le boulot du prompt engineer, justement, de tester ses prompts et de choisir le modèle qui sera le moins coûteux aussi.
Et le plus rapide.
Ouais. En résumé, le prompt engineering a un rôle principal à jouer pour les IA, que ça soit en mode conversationnel, donc on va dire même pour la secrétaire qui va se débrouiller avec Bing Copilot, que je gère, hein, ou avec quelqu'un qui est abonné à ChatGPT, ou alors en mode API avec les OpenAI API ou toute autre IA du même type, ou au sein de stratégies justement beaucoup plus élaborées, comme le sémantique kernel, dont Richard nous avait parlé récemment, et encore plus que récemment, puisqu'il l'a fait juste au début. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a donné une vague idée de, quand même, de ce que c'est que le prompt engineering et de son importance, en gardant en tête que bien évidemment tout ça c'est très très parcellaire, parce que ça va en fait beaucoup plus loin, il y a plus de choses à savoir. Donc voilà messieurs, et chers lecteurs, oui. Chers auditeurs.
Laurent, tu voulais y rajouter ?
Ouais, je tiens à dire qu'il y a une deeplearning.ai qui a mis en ligne un cours en partenariat avec OpenAI sur le prompt engineering pour les développeurs. C'est une heure ou une heure et demie de cours. J'ai commencé à regarder le début seulement pour l'instant. C'est assez intéressant et c'est gratuit. Donc,
tu pourras donner le lien pour qu'on le mette dans les notes de l'épisode.
Oui, bien sûr. Pas mal de trucs. Le truc de OpenAI est bien fait. Mais on trouve beaucoup de ressources de genre-là. En ce moment, ça fleurit de partout. Hein. Tout le monde a envie de se placer sur le credo. Donc, on trouve plein de... Alors, il y a vraiment à boire et à manger. Hein. Donc, même dans les livres qui sont sur Amazon, etc., vous jetez pas dessus. Hein. C'est vraiment de la daube en général.
Ouais. Bah, il y a eu d'ailleurs un post là, dernièrement de Scott Hanselman disant que, attention, là, il y avait un peu tendance à avoir des gens du marketing, etc., qui voulaient se mettre à l'IA et à faire du prompt engineering, et que c'était vraiment un métier, entre guillemets, à part entière, une science qui pour l'instant, est vraiment naissante, quoi, et qu'il y a beaucoup de travail à faire, quoi, et surtout que ça va encore évoluer avec les différents modèles d'IA qui vont arriver par la suite, quoi.
Ouais. Mais ça restera quand même toujours le... Parce qu'on peut lire aussi des choses comme quoi le prompt engineering, c'est fini, ça sert à rien de s'y intéresser, parce que on voit bien la différence entre ChatGPT 3 et 4, et que bien sûr, un jour, il n'y aura même plus besoin de se casser la tête pour savoir être sûr que l'IA a compris ce qu'on voulait dire. Et en fait, je pense que c'est assez faux, parce qu'on voit qu'au contraire, le prompt engineering lui-même, ça va être le cœur de tout. On le retrouve de partout, en fait, dans le conversationnel, on le retrouve dans le sémantique kernel, on le retrouve partout. Si tu as un mauvais prompt dans ton sémantique kernel, dans ton montage, je veux dire, ça fait tout par terre, quoi. Donc, ça va être quelque chose d'assez essentiel.
Ok, super. Merci, c'était très clair. J'ai noté aussi qu'on voit un petit peu actuellement un peu tout et n'importe quoi, justement, sur le métier de prompt engineer. Notamment, j'ai vu des salaires du style de $300,000 par an.
Bon, le jour où j'arrive à décrocher ça, les gars... Oui, je vous invite au resto, c'est promis.
Ok. Donc, je disais, avant de rejoindre Jérémy qui vient d'arriver, je voulais noter encore une autre petite news. Je pense que Olivier est au courant. Il y a le .NET Community Toolkit qui vient de paraître en version 8.2, avec notamment la possibilité de rajouter des custom attributes sur les relay commandes. Donc ça permet de mieux gérer ce qui se passe au niveau, vous savez, ça permet de générer du code automatiquement en mettant juste un attribut sur vos différentes méthodes. Et on a également la possibilité de gérer des méthodes dans le cycle de vie de modification d'une propriété. Donc, au moment où on affecte une valeur à une propriété, on peut s'abonner à son événement before changing, after changing, etc. Donc, ça continue à évoluer. Et c'est vraiment un outil que moi, je trouve très, très intéressant.
Ouais, c'est très sympa.
devdevdev.net. Richard Clark.
Bien, et ben donc nous avons Jérémy qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Donc Microsoft MVP développeur catégorie. Allez, je le remets dans l'ordre. Catégorie développeur technologie depuis 2010 et auteur du blog Bug Hunter. Je suis fatigué, moi.
T'inquiète, c'est le mardi, ça chauffe.
Oui, oui, voilà, ça commence à être.
Une petite semaine, c'est pas facile.
Comment ça va être vendredi? Alors, tu voulais nous parler d'un truc concernant Azure DevOps. Alors, c'est vrai que quand on va sur Azure DevOps, jusqu'à il y a 3-4 ans, je crois, on n'avait qu'une méthode, entre guillemets, classique, avec une superbe interface où on pouvait dire je récupère les sources, je récupère la dernière version de NuGet, j'exécute NuGet, etc., etc. Et depuis, il y a eu YAML qui est apparu, donc le fameux format de fichier qui nous fait revenir 30 ans en arrière. Bref, je n'ai toujours pas compris d'ailleurs ce format, je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Bref.
Pas le seul.
Et donc, on a actuellement la possibilité dans Azure DevOps de créer ces builds et ces pipelines, soit avec YAML, soit avec la version classique. Et tu voulais nous en parler?
Alors, oui, en parler, enfin, faire un petit point pour essayer d'éclairer tout le monde, parce qu'effectivement, ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on a les builds YAML. On est dans une situation un petit peu, enfin justement, je trouve qu'il faut l'éclaircir parce qu'on a effectivement beaucoup de solutions aujourd'hui pour utiliser tout ce qui est CICD dans Azure DevOps. C'est pas forcément toujours compris, et puis ce qui se passe, et même les équipes de Microsoft le reconnaissent, à un moment, on a tellement parlé des nouveautés qu'on n'a pas expliqué quelles étaient leurs limites, ou en tout cas qu'on n'a pas dit si aujourd'hui ça faisait partie un peu des choses qu'on pouvait utiliser. Je fais toujours le parallèle, moi, un truc qui va énerver. Si vous vous rappelez, un certain Silverlight 1, il y avait une petite étiquette alpha. Depuis Microsoft, quand ils ajoutent des fonctionnalités, ils mettent des previews, ça c'est clair. Et puis des fois, il y a des fonctionnalités qui vivent, qui quittent le label preview, et puis qui finalement fonctionnent. Hein. Elles fonctionnent bien. Par contre, elles ne sont pas encore au niveau des fonctionnalités qu'il y avait avant. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant YAML, avant les builds classiques avec le Xamarin, on avait XAML. Qui a quand même servi pendant de nombreuses années, qui a été le cauchemar de pas mal de développeurs, mais bon, finalement, c'était pas si compliqué ça. Et aujourd'hui, on a une situation, en fait, tout le monde s'en mêle un peu les pinceaux, et moi, je vois tous les développeurs, quand ils me disent qu'ils veulent faire une build, ils me disent « Ouais, ça va être du YAML, c'est forcément du YAML. » Alors, on va clarifier la situation, hein, pour que tout le monde se détende sur le sujet. Ce que je dis aujourd'hui, c'est plus qu'évident que dans un mois, ou dans deux mois, ça ne vaudra plus rien. Soyons réalistes. Non, mais il faut être clair hein, par rapport à ce que Microsoft fait sur Azure DevOps. Ils ont une équipe qui en plus est en train de se renforcer là, quand même sur la partie Azure DevOps. Et ils ont une équipe qui a des sprints de 3 semaines. Donc ça veut dire que eux-mêmes nous poussent régulièrement des fonctionnalités. Donc aujourd'hui, si on veut être clair sur l'utilisation d'YAML ou des builds classiques, il faut distinguer, on va dire, deux grandes fonctionnalités. On va avoir la partie vraiment orientée. Je fais de la build, je vais effectivement compiler, je vais lancer mes tests unitaires, enfin, je vais faire tout le pataquès habituel, on va dire, du pipeline de build pour l'intégration continue. Et on va vraiment avoir la partie orientée, je délivre en continu. Si on veut parler que de la partie je fais de la build, donc en gros l'intégration continue, il va falloir être clair. Effectivement, YAML, aujourd'hui, c'est ce qui avance le plus dans Azure DevOps pour faire de la build. Par contre, ça ne fonctionne que dans un seul contexte, c'est quand vous avez la chance d'avoir des repositories Git. Si votre équipe elle est encore en train de travailler avec du repository TFVC, vous pourrez mettre cette build YAML. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « j'ai un gros problème, j'arrive pas à mettre mes builds ». en fonction de votre repository, au niveau de la build, vous ne pourrez pas avoir de build YAML. Bon, c'est dommage. Les gens qui veulent être sur du TFVC, profiter des fonctionnalités YAML, ne peuvent pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu blasées, dégoûtées, parce qu'avant, il y avait du XAML. XAML était versionné avec le repository TFVC, donc ils avaient exactement les mêmes avantages que YAML aujourd'hui. Donc, ils se sentent un petit peu blasés. Bah, il n'y a qu'une chose à dire aujourd'hui. Si vous voulez profiter de YAML, bah, migrez vers Git. C'est ce qu'on conseille un peu à tout le monde. On sait que tous les projets ne s'y prêtent pas. Il y a beaucoup de problématiques autour de Git, c'est un autre sujet. Mais si vous voulez profiter des bulles YAML, c'est Git. Point. Ça, faut être clair. Après, il y a la deuxième partie qui est vraiment la partie delivery. Et là, c'est la partie où c'est la foire à l'empoignade, on va dire. Je vois beaucoup de personnes qui se disent, vu que j'ai une bulle de YAML, je vais forcément avoir un delivery qui se fait en YAML. Et je vais utiliser le multistaging. Il y a quelques années, Microsoft a mis ça en place au niveau d'Azure DevOps. Donc, multistaging, pour résumer, en gros, le principe, c'est qu'on va avoir un ou plusieurs fichiers YAML qui vont réunir les informations pour avoir un premier job ou plusieurs jobs associés au build. Parce qu'on pourrait bien avoir un job, par exemple, qui fait 32 bits, un job qui fait du ARM, ainsi de suite. Mm-hmm. Et puis, avoir au final un job qui a vocation à faire la partie delivery et qui va effectivement... Bah, peut-être déployer notre application sur un serveur ou déposer sur un serveur qui lui sert à la publication pour nos clients finaux. Donc aujourd'hui, beaucoup de développeurs disent « je fais du YAML dans ma build, donc je vais faire du YAML aussi dans la partie delivery ». Alors, c'est là que je dis non. Alors, je vais dire non pour une raison qui est bête, c'est qu'aujourd'hui, la partie delivery n'est pas du tout au même niveau sur la partie YAML que sur la partie build classique. À la partie build classique, il y a beaucoup de développeurs qui ne l'ont même jamais vu dans Azure DevOps. C'est la partie qui est estampillée par le petit logo release. Et quand vous allez sur le petit logo release, en fait, vous créez d'autres types de builds qui sont vraiment dédiés à la livraison. Et les personnes, quand on leur parle d'ailleurs de livraison, en fait, ils disent « mais pourquoi je me tape ce truc release à côté ?» Alors release, c'est historique, hein, c'est à cause de Release Manager pour les gens qui ont fait du Azure DevOps dans les premières versions, qui ont fait du TFS. Dans ces versions historiques, ça s'appelait Release Manager. Mm-hmm. Donc c'est une partie du produit qui a évolué, qui permet d'avoir des builds classiques avec un designer, comme tu disais Richard, qui fait le taf, qui le fait très très bien, qui fait un bon cran au-dessus de ce que fait notre ami YAML, pour des raisons assez simples. C'est que ce designer profite d'un gros historique qui a été tiré de ce qu'on avait avant sur XAML et sur Release Manager. Donc, il offre plus de lisibilité concernant les variables qu'on utilise, concernant les environnements, concernant les secrets. Une chose qui m'intéresse beaucoup, moi, quand je travaille avec Azure DevOps, c'est la gestion de tout ce qui va être gestion de projet. C'est un peu dommage. Hein. C'est que sur les builds classiques et sur Release Manager, donc sur la partie release, on va dire que les builds classiques, on va se retrouver avec la possibilité d'avoir plus d'options pour lier les work items, par exemple. Quand on fait un delivery, on va pouvoir avoir effectivement le lien qui se fait tout de suite avec certains work items, alors que quand on le fait avec du YAML, on va être limité. Je prends un exemple bête, hein, pour les gens qui sont habitués à faire par exemple du Git flow, ou qui sont habitués à avoir un certain nombre de notions un peu de dossiers virtuels dans Git, souvent on a des bug fix slash ou des features slash et ainsi de suite, et ben aujourd'hui, quand vous travaillez avec une bulle YAML ou avec un job pour faire du delivery en YAML, vous ne pourrez pas dire « je veux obligatoirement que tout ce qui est préfixé par release slash soit associé aux différents work items qui constituent ma build ». Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas, alors que ça existe dans la partie release et build classique. Mm-hmm. Ce genre de petites fonctionnalités. Alors, aujourd'hui, ce que je dis très clairement, c'est que si vous voulez faire de la release, prenez l'éditeur classique pour la release. Pensez pas tout de suite à la release YAML. Il ne faut pas se leurrer. Dans quelques mois, les produits seront mis à peu près à niveau.
À niveau.
Voilà. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, qui est très, très importante, parce que la question a été posée à plusieurs reprises, Microsoft n'a jamais dit qu'ils allaient supprimer le designer de build classique. Ils ont aussi jamais dit qu'ils allaient supprimer le designer pour faire les builds. Pour une raison qui est simple, c'est qu'en fait, sur la partie release, sur laquelle il y a beaucoup de personnes qui travaillent, sur laquelle il y a beaucoup de demandes, en fait, ils dépendent du designer des builds classiques. C'est le même designer qui fait le travail.
D'accord. Voilà.
Après, pour les personnes qui aiment bien avoir des contre-arguments sur ces outils-là, je rappelle qu'il y a des fonctionnalités que les développeurs n'utilisent pas beaucoup dans Azure DevOps. Moi, quand je regarde Azure DevOps, c'est que je me connecte à un nouveau serveur, je suis toujours surpris. Il y a deux sections qui sont assez mal utilisées. Il y a la section concernant les librairies, qui finalement permettent d'avoir des fichiers qu'on souhaite protéger, comme les certificats, par exemple, des variables qu'on souhaite protéger. Les gens aiment bien les mettre directement sur leur build YAML. Ils disent, allez, c'est parti, je mets tout dessus. Vous avez la librairie, vous pouvez pour de la build classique et aussi pour la build YAML, c'est pas réservé. Et d'ailleurs, c'est même plus facile à utiliser sur une build classique. Ça, c'est assez rigolo. Pour les gens qui ont fait des build YAML, à partir du moment où vous allez mélanger des variables, des paramètres quand vous faites des templates YAML, et que vous voulez en plus aller chercher des groupes de variables qui viennent de librairie à écrire en YAML,
c'est le cauchemar.
Je sais pas, j'ai envie de rester poli. Donc, c'est magnifique, avec des gros gros guillemets. Non, c'est un vrai cauchemar, ça devient illisible. En fait, on perd tout l'intérêt du YAML qui est très propre, qui est très simple, qui est très léger. Et à un moment, vous avez presque. C'est pas pour critiquer, mais vous avez presque l'impression de retrouver tous les inconvénients du XML. On dit on fait du YAML pour pas faire du XML. Il y a un moment, c'est pas aussi moche, ça n'est pas loin quand même.
Ouais. Voilà, mais alors, y a quand même un argument, c'est de l'avantage d'avoir son fichier YAML, c'est qu'on peut le mettre dans le code source et le versionner, etc.
Il y a souvent que tout cela existe aussi pour les bulles classiques. Il y a aussi un versionning. C'est sûr qu'on l'a pas dans son repository. Par contre, il y a un historique. En plus, on a des outils pour exporter les définitions de bulles de classiques. J'ai jamais regardé pour les releases, tiens, c'est un truc bête. J'ai jamais regardé pour en exporter parce que c'est toujours très, très. On va dire c'est propre, hein, c'est ancré sur souvent une entreprise. Donc tout ce qui est release, souvent, c'est des choses qu'on n'exporte pas ou qu'on ne duplique pas sur d'autres environnements. Donc c'est vrai que j'ai pas fait ça.
C'est vrai qu'il y a l'historique de son process, quoi, de son pipeline. Donc on peut revenir en arrière sans avoir à gérer. Un fichier, quoi.
Oui, alors ça fait partie des choses qu'on peut faire des deux côtés. Je veux dire que moi, vu que j'utilise les deux aujourd'hui, je trouve que les deux sont intéressants. C'est vrai que le YAML est aujourd'hui beaucoup plus rapide. Je prends un exemple, hein. Tout à l'heure, je travaillais, je travaille dans une équipe où on a beaucoup de développeurs, donc il y a beaucoup de branches, ça va très très vite, il y a beaucoup de merges dans la journée, il y a beaucoup de builds qui tournent. Nos serveurs ils sont bien bien rentabilisés et tout à l'heure j'ai fait 2-3 modifs sur des fichiers de build, je les ai mergés avec ma branche de main, ça y est c'est parti, je sais que mes collègues vont pouvoir profiter des builds, les builds qui vont tourner ce soir et les builds qui vont tourner demain matin, elles auront les paramètres que j'ai choisis, les évolutions que j'ai voulu appliquer cet après-midi, elles sont déjà disponibles à tout le monde. J'ai pas à me poser la question à me dire est-ce que j'ai pas oublié un truc, non, j'ai pu tester, j'ai pu tout préparer, j'ai pu le faire sur une branche dans mon guide dans un coin, j'ai pu voir comment ça marchait. Je sais que c'est dispo pour tout le monde et que tout le monde peut l'utiliser sans crainte. Ce qu'on ne peut pas aujourd'hui toujours faire avec une build classique, à part si on prend le temps, effectivement, en termes de manipulation, de dupliquer sa build, de faire ses manipulations dessus, et ainsi de suite.
C'est et toi, Olivier, alors, t'es plutôt YAML ou t'es plutôt old school? Parce
que... Là-dessus, je suis un peu old school, ouais. YAML, je sais pas, j'arrive pas à accrocher, mais je vois les avantages. Mais après, ça dépend du type de projet sur lequel tu travailles, aussi dans quel environnement. Les aspects comme ça, gestion de projet, de build, de machin. Souvent, dans les dernières années où je suis intervenu, j'intervenais à des niveaux qui étaient assez différents de ça. Donc, c'était pas forcément moi qui m'en occupais. Donc, c'est vrai que ça m'a pas aidé à être. De redevenir un expert en YAML ou autre. Je veux dire, donc, je suis resté sur mes vieilles habitudes. Mais bon, ça demande qu'à changer. Hein. Une prochaine mission où il n'y aura que du YAML, je serais bien obligé de faire avec. Hein.
Après, YAML, ça fait plus geek. Quoi.
Ouais, c'est ça, ça fait plus branché, quoi, c'est sûr.
Alors, moi, il y a un truc qui me fait rigoler, parce que par rapport à YAML, j'ai eu souvent le cas, et je l'ai eu encore plus ces dernières années. C'est que moi j'étais dans des cas, effectivement, on avait envie de simplifier des bulles qui avant étaient des choses qui étaient entièrement scriptées. Et aujourd'hui, pour ne pas reproduire ça, moi je me suis retrouvé dans des situations, finalement, j'ai réécrit des fichiers MS Build qui, effectivement, ont fait beaucoup de travail que j'aurais fait avant XAML, quand je faisais du Workflow Foundation. Et aujourd'hui, l'avantage de la RMS Build, c'est que je teste localement. Finalement, je fais beaucoup d'opérations locales avant de dire à ma build, vas-y, utilise le fichier MS Build. Donc ça reste des choses un petit peu particulières. Je ne suis pas sur toutes les plateformes, mais c'est largesse, on va dire.
C'est encore plus tricky, là.
Bah, finalement, non, parce que quand tu étais habitué à XAML, ça semble logique, tu déposes des tâches au format XML. Mine de rien, c'est ce qu'on fait avec tous nos fichiers aujourd'hui projet, avec le nouveau format orienté SDK. On dépose ces tâches à l'intérieur, ça ne choque plus personne aujourd'hui, tellement c'est devenu simple dans l'édition. Donc c'est vrai que le MS Build, moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y réintéressent. D'ailleurs, on avait parlé sur DevApps il y a un peu plus d'un an. Moi, ça me fait sourire parce qu'il y a des choses, je me dis, tiens, c'est marrant, je ne suis pas tout seul dans mon coin à m'intéresser à ce truc-là, quoi.
Et toi, Laurent, parce que toi, en plus, j'allais dire, toi, est-ce que tu es YAML ou old school, mais en plus, tes builds, c'est intégré dans autre chose, je crois.
Ah, c'est une bonne question. Alors moi, je suis pas YAML du tout. Je suis pas. Je suis C Sharp. Et j'écris mes builds en C Sharp. Et en utilisant un Nuget qui s'appelle Nuke, qui permet d'écrire vraiment des builds avec les. L'avantage que je trouve, c'est que bah déjà, je suis un développeur C Sharp, donc j'arrive à prendre ce truc-là en main assez rapidement. Je peux écrire du code qui va faire des vérifications, des choses comme ça. Par exemple, ce que je peux prendre comme exemple, c'est on a des fichiers qui sont générés par exemple pour le code coverage ou pour des analyses end-to-end. Et je peux aller lire un fichier XML en écrivant une petite extension C Sharp et aller parser ce fichier XML, etc. Donc je peux refactorer ma build avec les outils que je connais. Je peux faire tout ça. Donc, moi,
C'est encore une autre voie, quoi.
Ouais, c'est encore une autre voie. Après, là, il y a un truc qui est pas mal avec ce système Nuke. Par exemple, bon, là, on parle d'autres systèmes, mais GitHub Action, ben, je peux projeter, je peux lui demander, je peux décorer en fait ma build avec certains attributs, et lui va me générer le YAML de GitHub Action, par exemple. Et donc là, j'aurai le fichier automatiquement sans avoir écrit de YAML. C'est vraiment Nuke qui va me générer ce fichier. La même chose, je crois, pour en Kotlin pour TeamCity.
D'accord.
Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose pour DevOps, par contre. Là, je ne
Pas
mettrai pas ma main à
une
vérifier, en fait.
intégration. Non, non, pas une intégration directe, parce qu'effectivement, Laurent, c'est pas la première fois que tu parles de Nuke. Moi, je m'y étais intéressé pour voir ce que ça pouvait nous apporter. Et on s'était rendu compte que, en fait, par rapport aux études, moi, j'ai pu voir différentes entreprises que j'ai parcourues. Ça, en fait, ça m'a porté à rien, puisque effectivement, on avait beaucoup de MS Build. Donc finalement, on n'avait pas la problématique. Et puis surtout, on suppléait à beaucoup d'extensions par du PowerShell, hein, ce qui nous permettait des choses sympathiques. Et par contre, on sait qu'il y a des manques. Enfin, moi, je vois qu'il y a des manques. Les gens, quand ils veulent faire des extensions, effectivement, revenir à ce que tu dis, Laurent, avoir du C-Sharp pour la build, ce n'est pas directement dispo. Donc je sais qu'il y a des personnes qui déploient effectivement des packages Nuggets pour en plus pouvoir lancer des tâches au travers de Nuggets. Ça se fait, hein, aujourd'hui, on est sur Azure DevOps. Par contre, la vraie problématique, et Microsoft l'a compris, c'est que pour les gens qui font des extensions, aujourd'hui, il y a un vrai manque pour le débogage. C'est la croix à la bannière pour faire du débogage quand on fait du Azure DevOps. Niveau extension, hein, pour faire de la bulle, c'est que du bonheur, hein, ça passe tout seul. On a des logs qui sont tellement complets que dès qu'il y a une bise arrive, on le voit. Et puis en plus, avec l'expérience, il y a des fois, on le voit dans le log que de toute façon, on a fait une bourde. Enfin, moi, maintenant, je commence à la voir avant qu'elle arrive. En même temps, c'est un petit peu à me taper sur le ciboulot. Quand on voit les logs, on commence un peu à avoir la tête qui prenne, on se dit ça y est, j'ai fait encore absurdité, j'ai oublié un truc. Je trouve que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, on a des années-lumière de ce qu'on avait avec les premières builds MS Build sur TFS. On est aussi assez loin de ce qu'on avait XAML, même si on a beaucoup d'éléments qui se rapprochent, parce que XAML, on avait vraiment un soin qui était très très présent, qui a été bien apporté par l'équipe Microsoft sur les logs. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que, par exemple, quand on regarde du Git, on voit qu'ils ont bien récupéré le boulot qui était dans Azure DevOps concernant les builds et qu'ils ont fait un truc très sympa sur les logs. Parce que ça, c'est vraiment. Enfin, moi, sur d'autres plateformes, c'est vraiment le truc que je regarde, c'est qu'est-ce qu'on a comme log. Et pour moi, c'est le premier élément pour débugger sans rentrer la main dans le cambouis.
Ouais, alors, C'est vrai que j'ai pas parlé de, je parlais des outils de refactoring, de renommage, de navigation dans le code, etc. Mais le débogage, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi avec Nuke, c'est que avant, l'habitude que j'avais, c'était ben, tu lances une build. Et effectivement, tu as les logs, tu vas essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas à travers des logs qui sont pas mal. Mais tu dois relancer une build. Et c'est quoi une build à la fin? C'est un enchaînement de tâches à exécuter. Ben, je vais faire un checkout de mon code, je vais downloader les nuggets, compiler, lancer mes tests et tout ça. Et quand tu arrives à une build qui prend quelques minutes, voire une dizaine de minutes, et que à la fin, tu as fait un changement dans la dernière tâche, par exemple, qui va uploader sur SharePoint l'artifact qui a été buildé et que ça crache pour une raison, ben, les logs, c'est sympa, mais tu tapes 10 minutes à chaque fois, à chaque changement et à chaque test. Et là, avec Nuke, ce que j'adore, c'est que tu peux lancer le truc en local et vraiment attacher ton débugger facilement et commencer à débugger cette tâche-là, quoi, tu vois.
Ouais,
c'est vraiment sympa, quoi.
C'est ce qui manque vraiment aujourd'hui, hein, par rapport à Azure DevOps.
Un peu boîte noire.
Bah, c'est pas boîte noire, parce que justement la partie log, quand on l'utilise tous les jours, on se rend compte que je vois ce que décrit Laurent, c'était un comportement qu'on avait à une époque. Effectivement, on se pataugeait des kilomètres de log au début pour voir ce qui se passait. Maintenant, en fait, on arrive sur sa build, vu qu'on a la mise en avant des problèmes, on clique dessus, ça ouvre directement la tâche qui a posé problème, l'emplacement ça a posé problème, on a tout. Enfin, on n'est plus en mode boîte noire, on est vraiment sur quelque chose qui est devenu beaucoup plus ouvert que par le passé, beaucoup plus simple à maintenir, et puis avec un niveau, niveau verbosité du log, si on peut dire ça en français aujourd'hui, qui s'est amélioré. Ça a mis du temps, hein. C'est pas arrivé tout de suite comme ça par magie, hein. Mm-hmm. Même l'ergonomie, on l'a vu, elle a évolué, c'est des choses qui bougent. Par contre, si on pouvait avoir du débogage, comme le dit Laurent, oui, là ce serait top. On sait que ça va arriver parce que ça a été soumis à Microsoft, et qu'ils en ont parlé à plusieurs reprises, donc on sait qu'ils vont améliorer les choses. Puis de toute façon, ils n'ont pas le choix, il y a une demande autour d'Azure DevOps. Aujourd'hui, il faut se rappeler qu'on est dans une situation où on ne parle plus d'une team unique Azure DevOps et GitHub, ce dont on a parlé pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, il y a vraiment des équipes affectées à Azure DevOps.
Mm-hmm. Encore une fois, moi, pouvoir attacher un debugger, c'est clairement, enfin, tu le dis aussi, hein, c'est clairement encore un autre niveau pour...
Oui, c'est autre chose.
Pour résoudre tes problèmes, quoi.
Ben, ça arrivera, ils sont obligés, hein. Il n'y a pas le choix, il y a de la demande, il y a une grosse demande.
Ok, bien, avant de passer au dernier sujet, qui sera encore pour toi, Jérémy, je voulais juste noter qu'il y a ce week-end, là, il y a le Global Azure Event. Donc, c'est des événements sur Azure, autour d'Azure, qui se déroulent un petit peu partout dans le monde. En France, on a trois endroits où ça se passe. Il y en a un jeudi, alors vous pouvez faire les trois, parce que c'est les trois jours différents. Vous avez jeudi après-midi, vous pouvez aller à Strasbourg, à la place digitale, donc l'après-midi de 14h à 19h, où il y a nos amis Christophe Guillax et Philippe Didier Georges qui vont animer des sessions. Vous avez le lendemain, vous allez de l'autre côté de la France, vous allez à Rennes, donc vous prenez un avion ou alors vous prenez une voiture qui va suffisamment vite, puisque dès 9h30 à l'Epitech, vous aurez cet événement de MTG Rennes. Et enfin, le plus gros événement, c'est celui qui se déroulera bien sûr à Paris, puisque tout se passe à Paris en France. Et donc, c'est samedi de 13h30 à 18h15 à l'École supérieure de génie informatique. Voilà, je mettrai les liens, sachant que c'est ce week-end, là, donc faudra aller assez vite.
En jet privé, c'est bon.
Oui, en jet privé, c'est assez bon, oui. Et alors, donc Jérémy, tu voulais nous parler d'un dernier sujet où tu disais qu'on ne vit pas dans un monde idéal où on choisit ce qu'on voulait, si j'ai bien compris le sujet.
Ouais, en gros, c'est, on ne va pas faire un sujet coup de gueule, hein, comme parlaient tous français.
Alors, tu as 5 minutes. Hein.
Ouais. Non, mais on va le faire en 5 minutes. Oui, tout à fait. Chrono, c'est possible.
Alors, Olivier a été très concis aujourd'hui. Hein.
J'ai noté.
C'était remarquable.
Je suis arrivé après la bataille et j'ai noté qu'Olivier avait terminé son sujet. Je suis sur les fesses. Alors, je vais essayer de gratter mes 5 minutes. Quand on se réunit à plusieurs MVP, c'est assez rigolo parce que tout le monde présente toujours des super technos, des trucs qui claquent. Laurent, il parle du nuke et autres. On va tous être effectivement sur son petit nuage. On va parler de techno super sexy. Et puis en fait, il y a un truc qui est rigolo, c'est quand il y a des vraies questions techniques, il y a toujours une phrase qui sort, c'est ça dépend. Et c'est la phrase qui fait sourire, je pense, beaucoup de personnes. Moi, j'ai eu des remarques de personnes qui écoutent et qui m'ont appelé. C'était rigolo parce que des anciens clients, des anciens collègues, ils me disent, c'est marrant, les autres copains MVP aussi, ils balancent du ça dépend. Et les gens ne comprennent pas toujours ça dépend. Il y a quand même un truc qui doit être clair.
C'est un truc d'expert, ça. Hein,
ouais, c'est un truc d'expert, mais en fait, c'est un truc d'expert. Les gens n'arrivent pas toujours à comprendre quand on dit ça dépend, parce que derrière les technos sexy, il faut se rendre compte qu'on ne les utilise pas tous les jours. Je trouve que les gens ne réalisent pas que ces technos sexy, on les aime. On en parle parce que souvent, ça nous sort de notre quotidien. Le quotidien, il fait plein d'autres choses. Effectivement, on va à une problématique qui est la problématique la plus courante, c'est la problématique de délai. On le vit tous avec nos utilisateurs, nos clients finaux, nos collègues, parce qu'on a tous des deadlines. Donc, ça fait que ces technos sexy, des fois, elles ne sont pas disponibles au moment où on en a besoin. Des fois, on n'a pas l'environnement technique qui est prêt pour qu'on s'en serve, ou des fois, nos collègues, ils sont pas du tout prêts eux-mêmes à y passer. Donc, le ça dépend, il cache souvent ce genre de choses. Toutes ces notions de délai, toutes ces notions, effectivement, de problématiques des collègues. Et puis, aussi une autre partie dont on a toujours beaucoup de mal à parler en France. Moi, j'en parlais avec un certain nombre de collègues anglo-saxons. C'est le côté dette technique. La dette technique, ça, je vais pas dire que c'est un truc qui est moche. On l'a tous à un moment. Cette dette technique, elle est souvent héritée de ce que je disais juste avant, savoir la notion de délai. Le premier problème qui fait qu'on dit souvent ça dépend, c'est que souvent on est face à des personnes qui ont du mal à reconnaître le fait qu'il y a une dette technique. Et on ne peut pas résoudre un problème si on ne reconnaît pas qu'il existe. Et moi j'étais dans beaucoup de situations, on ne pouvait pas avancer. Et on était toujours à dire ça dépend, est-ce qu'on a le droit de toucher à ceci ou cela? Ça dépend, est-ce que ça sera enfin réglé? Souvent, la dette technique, en fait, les gens ne veulent pas la reconnaître. Et donc, il arrive le deuxième gros problème qui va avec la dette technique, on va dire, c'est une fois qu'on a potentiellement reconnu une partie de la dette technique, combien de temps on lui alloue? Et là, il y a le fameux autre, ça dépend. Est-ce que ça va être livré pour hier, avant-hier ou avant-avant-hier? Et de toute façon, on ne vous dira jamais que c'est pour demain ou la semaine prochaine. On vous dit toujours que c'était avant-hier. Enfin, c'est la réalité du métier, elle est là. Donc, les jeunes développeurs qui nous écoutent, je pense qu'il ne faut pas qu'ils soient dégoûtés en disant, les mecs, ils ont des jobs super sexy, c'est super cool. Certains, ils font effectivement du prompt pour des IA, ils sont payés à 300 000. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Faut pas rêver. On n'est pas... Enfin, moi, je n'en suis pas là. J'aimerais bien. Hein. Coucou, mon chef, hein, si tu m'écoutes. Voilà. Non, mais il faut être réaliste. Enfin, on a toute cette notion de délai, de dette technique qui nous font perdre beaucoup de temps, qui font qu'on ne sait pas toujours ces technos. Et après, il y a l'autre partie qui n'est pas toujours évidente. On a beaucoup de développeurs aujourd'hui qui sont lancés dans le développement, on va dire, ce siècle. Donc, je vais parler de choses que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ce qu'on appelle historiquement des hébergeurs. Ça existe encore. Et là arrive un autre, ça dépend. Est-ce que l'hébergeur, il est prêt à? Est-ce que l'hébergeur, quand on lui demande quelque chose, ça va arriver? Est-ce que quand on demande une VM, on va l'avoir? Est-ce qu'on va pas avoir la chance d'avoir une machine déployée avec du PHP alors qu'on fait du .NET? Voilà, c'est un autre, ça dépend, qui, mine de rien, va plomber, en fait, ce dont on a discuté avant, à savoir les délais, à savoir la dette technique, et peut-être rajouter encore un peu de délai, et peut-être encore un peu de dette technique, parce qu'on n'a pas les bons outils sur les machines. Donc voilà, ces parties-ci qui sont des choses toutes bêtes, qui sont la vie de tous les jours, et je pense qu'il faut rassurer les développeurs, on les vit, enfin moi je les vis, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, Richard, quand on parle, tu nous parles aussi d'autres technologies qui sont d'un autre âge. Je pense que les développeurs ont besoin de comprendre que on vit pas tous dans un monde de bisounours, pour reprendre une citation dans les anciens chefs, on est dans un monde où la réalité fait qu'il y a des technos sexy qu'on aime bien en parler, qu'on aime bien donner nos retours d'expérience. Et arrive là encore un autre, ça dépend. C'est que des fois, on a des clients, on en revient à voir leur retour d'expérience par rapport à ce qu'on leur a fait. Ce qui fait qu'on n'utilise pas la nouvelle techno sexy parce que finalement, le client ne nous a pas dit que ce qu'on avait fait avant, ça lui plaisait bien et qu'il aimerait passer à autre chose ou qu'il était prêt à passer à autre chose. Donc, C'est pas un coup de gueule que je passe, c'est juste un avertissement pour les jeunes développeurs, dire, vous vous inquiétez pas, hein, on n'a pas tous la même vie en tant que développeur, on n'est pas tous sur les mêmes technos. Moi, je connais un ancien collègue qui est sur les technos d'avenir, coucou Mister 4D, bon, bah, quand vous faites du 4D, vous êtes quand même sur des technos aussi dans notre âge, mais il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont encore ces technos et qui n'ont pas forcément le temps, les équipes à disposition pour passer à autre chose, donc qui ont encore un petit peu à maintenir ce genre d'application. Voili, voilà, voilà.
Bien, et eh ben écoute, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. C'est vrai que on est toujours tous très intéressés par les nouvelles techno et que souvent c'est plus en dehors de son temps de travail que l'on découvre ces nouvelles techno que concrètement sur des projets de tous les jours quoi.
Ouais, je pense qu'il faut être honnête avec les jeunes développeurs, ceux qui ont un peu plus de bouteilles ou qui font des conversions. Effectivement, c'est sympa hein, quand on va lire Olivier avec Maui. Moi, j'en rêve du Maui, j'en rêve. Hein, mais je suis pas prêt d'y toucher. Hein. Mais je lis tes articles, Olivier. Je lis, je rêve. Je rêve le vendredi soir. J'attends mon petit article du vendredi.
Bien. Eh ben, écoutez, ben, merci beaucoup. Et puis, ben, au mois prochain.
Ouais, merci à vous.
Au mois prochain. Salut.
Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée ou nous contacter sur Reddit ou via Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain pull request.